Vous écoutez, on lit pour vous.
Maladie de Charcot. Le mystère sur son origine enfin levée. Un texte de Cassandre Rogeret, paru le 21 avril 2025 sur le site handicap.fr. Avancée majeure dans la lutte contre la maladie de Charcot. Des chercheurs chinois identifient une anomalie génétique comme déclencheur possible de cette pathologie neurodégénérative incurable. Une piste prometteuse pour un futur traitement. Le mystère entourant l'origine de la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, SLA, n'est plus entier. Des chercheurs chinois de l'Académie des sciences renforcent la piste sur la mutation génétique étudiée depuis de nombreuses années. Sur le banc des accusés, un dysfonctionnement des mitochondries, souvent décrites comme les centrales énergétiques des cellules. Une découverte majeure, publiée en mars 2025, dans la revue scientifique Nature Neurosciences, symbole d'espoir pour les 8000 personnes concernées en France et 450 000 dans le monde. Une anomalie génétique dans l'ADN des mitochondries. Cette maladie neurodégénérative se caractérise par une paralysie progressive et rapide des muscles, l'atteinte du muscle respiratoire étant le plus souvent à l'origine du décès. Bien que certaines formes familiales aient été recensées, 10%, la SLA apparaît le plus fréquemment de manière isolée, 90%. Cette nouvelle étude met en cause une anomalie génétique dans l'ADN des mitochondries chez la moitié des 40 patients étudiés étant atteints de la forme sporadique de la maladie sans antécédents familiaux connus. La mutation introduite chez des rats. Et cette anomalie semble faire beaucoup de dégâts. Perturbation de la respiration cellulaire et du fonctionnement des motoneurones, les cellules nerveuses qui contrôlent les mouvements. Pour vérifier leur hypothèse, les chercheurs ont introduit cette anomalie dans l'ADN des mitochondries de rats en bonne santé. Un véritable tour de force. Résultat. En vieillissant, ils ont développé des symptômes de la SLA. Altération progressive de la marche, paralysie des membres, atrophie des muscles, puis décès. Tout comme dans la maladie de Charcot, seuls les motoneurones des murins ont été touchés dans le système nerveux. À la recherche de nouveaux patients. Les scientifiques recherchent désormais de nouveaux patients pour confirmer la fréquence élevée de ces mutations et ainsi consolider leurs résultats. Le cas échéant, ils pourraient envisager des médicaments ciblant cette anomalie dans les mitochondries. Une perspective particulièrement prometteuse, puisqu'à ce jour, il n'existe aucun traitement curatif pour traiter cette pathologie rare qui conduit généralement au décès en moins de 5 ans. C'était Maladie de Charcot, le mystère sur son origine enfin levée, un texte de Cassandre Rogeret, paru le 21 avril 2025 sur le site handicap.fr.
Le projet de loi du ministre Bernard Drainville divise. Un texte de Thomas Laberge, paru le 22 avril 2025 dans La Presse. Québec. Le projet de loi du ministre Bernard Drainville, qui vise à élargir la laïcité dans les écoles du Québec, est loin de faire consensus. Alors que la liste des personnes qui demandent que la pièce législative aille plus loin augmente, d'autres réclament purement et simplement son retrait. En commission parlementaire mardi matin, le philosophe Normand Baillargeon a dit souhaiter que la laïcité soit étendue aux écoles privées, aux écoles religieuses et aux CPE. Citation : Il faut que l'école soit un lieu de formation à la pensée critique, incarné dans cet idéal de laïcité et d'universel. Fin de citation, a-t-il soutenu. M. Baillargeon a dit que sa réflexion n'était pas encore terminée quant au cégep. Citation, « Mais pour le reste, je maintiens ce que je viens de soutenir. L'interdiction des signes religieux partout et pour tous, sans aucune réserve. Aucun compromis sur les accommodements ou les exceptions, comme des salles de prière. » Fin de citation, a-t-il ajouté à l'Assemblée nationale mardi. Le groupe féministe « Pour les droits des femmes au Québec » PDF Québec, réclame, citation, « l'interdiction complète du port de signes religieux à l'école par les élèves du primaire et du secondaire, du secteur privé comme public. » Fin de citation. PDF Québec demande que les signes religieux soient prohibés dans les garderies et les CPE pour les enfants et le personnel, ainsi que l'interdiction des lieux de prière dans les cégeps et les universités. Le projet de loi 94 prévoit d'étendre l'interdiction du port de signes religieux à l'ensemble du personnel des écoles publiques ainsi qu'aux personnes travaillant dans le cadre d'ententes avec les établissements scolaires. Une clause de droits acquis est néanmoins prévue pour tous ceux qui sont déjà en fonction. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a déjà fermé la porte à étendre l'interdiction des signes religieux aux élèves. Le ministre a dit mardi que les écoles privées seront considérées dans un second temps. Citation, « Déjà, ce que nous avons déposé pour ce qui est de l'école publique, c'est considérable. Donc, on va y aller par étapes. » Fin de citation, a-t-il affirmé. La pièce législative va aussi interdire le voile intégral dans les écoles publiques et privées, tant pour les élèves que pour le personnel. Le projet de loi 94 a été déposé dans la foulée de manquements à la laïcité qui ont été observés dans plusieurs écoles québécoises, dont Bedford à Montréal. Il y a deux semaines, l'éminent sociologue Guy Rocher a soutenu qu'il fallait étendre l'interdiction des signes religieux aux élèves des écoles publiques du Québec. Pour sa part, le mouvement laïque québécois, MLQ, a demandé l'interdiction des tenues vestimentaires religieuses, comme le hijab et l'abaya, pour les élèves. La France a déjà une loi qui va dans ce sens depuis 2004. La Ligue des droits et libertés, LDL, a demandé jeudi le retrait du projet de loi 94, affirmant qu'il est, citation, « contraire à une laïcité ouverte et inclusive » et qu'il est attentatoire aux droits et libertés protégés par les chartes québécoises et canadiennes et par le droit international des droits humains. Fin de citation. Citation. En imposant une sécularisation forcée aux individus et en excluant des personnes du système d'éducation publique en raison de l'expression de leur appartenance culturelle et religieuse, le projet de loi 94 propose un modèle de gestion du pluralisme de type assimilationniste. Fin de citation, a affirmé la porte-parole de la LDL, Diane Lamoureux, mardi. Dans une lettre publiée dans La Presse mardi matin, trois anciennes députées, Françoise David, QS, Louise Arel, PQ, et Christine Saint-Pierre, PLQ, ont condamné le projet de loi du ministre Drainville, soutenant qu'il pénalisera surtout les femmes. La CSN a aussi déjà réclamé que la pièce législative du ministre Drainville soit retirée, arguant, entre autres, qu'elle empirerait le manque de personnel dans le réseau. C'était le projet de loi du ministre Bernard Drainville divise, un texte de Thomas Laberge, paru le 22 avril 2025 dans La Presse.
Je suis avec vous, comment puis-je vous aider? Un texte de Jonathan Cossette, paru le 22 avril 2025 dans l'Hebdo Journal. Ici, Média Mauricie a eu l'occasion de s'immiscer au cœur du Centre d'appel de la Sûreté du Québec, SQ, de la Mauricie-Lanaudière Centre du Québec. Le centre trifluvien couvre la région de la Mauricie, Lanaudière, Nicolet et Bécancour jusqu'à la Tuque, puis aux limites du lac Saint-Jean. À l'aube de son quart de travail, Roxane Gervais a bien voulu nous raconter ce qui l'a amenée à devenir répartitrice au centre d'appel. Ça faisait longtemps que je pensais à faire cet emploi, et j'ai une ancienne collègue qui m'a expliqué qu'on pouvait le faire sans nécessairement avoir suivi de cours là-dedans, ni la technique policière. J'étais sauveteur lorsque j'étais jeune et j'ai fait des stages en ambulance par curiosité. J'ai donc toujours aimé les métiers d'urgence, alors j'ai appliqué ici, témoigne celle qui y travaille maintenant depuis 2 ans. L'écart de travail passe très vite. Il y a des moments où c'est plus tranquille et généralement la nuit, il y a plus d'activité. On a beaucoup d'appels concernant la santé mentale également. Entre les appels, on s'entraide beaucoup entre nous, comme enquêter quelqu'un ou un endroit. On fait beaucoup de recherches pour s'assurer que le policier ait le plus d'informations possibles pour son intervention. Cette partie-là de recherche est le fun à faire aussi. Depuis quelques années, leur titre exact est maintenant « agent de soutien aux activités policières ». Ça prend plusieurs qualités pour être répartiteur, comme une excellente communication et une bonne écoute, explique pour sa part Nancy Vallière, responsable du Centre de gestion des appels à Trois-Rivières pour la Sûreté du Québec. Il faut faire preuve de sang-froid et avoir une bonne répartie pour être capable de prendre le contrôle de l'appel lorsque la personne est angoissée et crie, en panique. Nos répartiteurs sont des petits enquêteurs qui doivent faire l'image de la situation, que nous n'avons pas, pour que les policiers aient le plus d'informations possible lorsqu'ils se déplacent à un événement. C'est ouvert à tous, à beaucoup de candidats potentiels, renchérit Héloïse Cossette, porte-parole aux communications de la SQ. C'est une question de personnalité, d'abord et avant tout. La personne doit être capable d'être organisée et d'effectuer son travail de première ligne pour bien guider les policiers. Dans les prochains jours, nous allons poursuivre notre campagne de recrutement sur les réseaux sociaux. Par année, on parle de 1,8 million d'appels à travers le Québec. À Trois-Rivières, tout près de 25 000 appels ont été reçus en mars seulement, traités par une cinquantaine d'opérateurs. Certains y travaillent depuis 20 ans, d'autres 15. C'était « Je suis avec vous, comment puis-je vous aider ?» un texte de Jonathan Cossette, paru le 23 avril 2025 dans l'Hebdo Journal.
Avoir un médecin de famille grâce à nos lois environnementales. Un texte de Mélissa Lem et Nola Poirier, paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. Nous avons besoin de plus de médecins au Canada, et les réglementations environnementales pourraient nous aider à les payer. Dans le contexte où une personne sur 5 au pays n'a pas un accès adéquat aux soins primaires, nous devons trouver un moyen de former, d'embaucher et de rémunérer davantage de professionnels de la santé. Un nouveau rapport de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, ACME, intitulé « Santé, prospérité et sens commun », montre qu'en réduisant les maladies et les décès prématurés, les réglementations environnementales permettent de réaliser d'importantes économies dans le domaine de la santé. Ces économies ont 2 effets puissants. Elles réduisent le fardeau de la pollution sur le système de santé et libèrent de l'argent qui pourrait être utilisé pour embaucher davantage de médecins et d'infirmières. Pendant que la campagne électorale bat son plein, Trump et les tarifs douaniers font la une des journaux. Mais derrière ces histoires se cachent de profondes inquiétudes quant à l'accès aux soins de santé et à leur accessibilité financière. L'opinion publique canadienne est de plus en plus dominée par ce que le sondeur David Coletto appelle un état d'esprit de précarité, c'est-à-dire une inquiétude quant à la fiabilité des systèmes essentiels tels que les soins de santé, le logement et les services sociaux. Le rapport Santé, prospérité et sens commun illustre comment une politique environnementale forte apporte un bénéfice direct et mesurable à la santé des Canadiens et aux finances de notre système de santé. Grâce à une politique environnementale bien conçue, de nombreuses communautés connaissent moins d'épisodes d'asthme, moins de maladies chroniques, moins de visites à l'hôpital et moins de décès prématurés. Des économies. En examinant les économies réalisées en matière de santé grâce à 4 règlements environnementaux introduits par les gouvernements conservateurs et libéraux au cours des 13 dernières années, le règlement sur l'arrêt progressif de la production de charbon, 2012, le règlement sur le méthane, 2018, le règlement sur l'électricité propre, 2024, et le règlement sur les composés organiques volatiles, 2025, le rapport montre que des mesures ciblées visant à réduire les polluants ont des effets bénéfiques considérables sur la santé, ce qui permet d'économiser de l'argent et de réduire les risques de santé et de mortalité pour des centaines de milliers de personnes. Les données gouvernementales sur les économies en santé qui font partie de l'analyse coût-avantage de chacun de ces règlements ont une portée étroite. Dans la plupart des cas, les économies réalisées sur les coûts en santé ne tiennent pas compte des avantages pour la santé découlant d'autres améliorations environnementales résultant de la réglementation, par exemple l'amélioration de la santé des sols pour l'agriculture. Elles ne tiennent pas non plus compte des avantages considérables pour la santé qui découlent de la réduction de la gravité et du risque des changements climatiques. Pourtant, même en tenant compte de ces omissions, les économies réalisées en matière de soins de santé dans le cadre des 4 règlements s'élèvent à un total de 18 à 21 milliards de dollars. Nous ne pouvons pas reculer. Une estimation sommaire de ce que ces fonds pourraient apporter au système médical montre qu'il s'agit d'une somme suffisante pour embaucher entre 2200 et 2500 médecins pendant 36 ans, ce qui signifie que près de la moitié des personnes au Canada qui n'ont pas de médecin pourraient en avoir un. Et il ne s'agit là que de l'effet potentiel de 4 règlements. Il s'agit d'un rappel important pour tout le monde au Canada, pour les électeurs qui évaluent leurs options pendant les élections et pour les décideurs politiques qui déterminent les actions les plus judicieuses pour notre santé et nos richesses. Des réglementations telles que les règles nouvellement renforcées pour le méthane, rédigées en 2023, et le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz, rédigées en 2024, sont mortes au feuilleton lorsque le Parlement a été dissous pour les élections de 2025. Il incombe au prochain gouvernement, quel qu'il soit, de protéger notre santé en adoptant rapidement des versions ambitieuses de ces politiques. Que les coûts soient calculés en vies humaines ou en dollars perdus pour les soins de santé, nous ne pouvons pas reculer. C'était « Avoir un médecin de famille grâce à nos lois environnementales », un texte de Mélissa Lem et Nola Poirier, paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir.
Le théâtre, c'est pour tout le monde. Un texte de Thomas Verret, paru le 21 avril 2025 dans Momon Calme. Le théâtre, la danse, tout le monde devrait pouvoir en faire, y compris les gens au parcours moins conventionnel. Pour ses 30 ans, Entracte présentera ainsi le spectacle Espérer ce vendredi au Diamant. Le projet implique notamment 2 groupes de théâtre et 1 groupe de danse qui participent aux ateliers de création scénique organisés par l'organisme au Centre Lucien Borne. Fébrilité dans l'air. Citation. Ce qui est le plus excitant, c'est de pouvoir être félicité par les gens qui nous regardent, de pouvoir leur donner un bon moment. Fin de citation, lance une actrice Christine Lebeau-Plamondon, rencontrée samedi au Centre communautaire du Chemin Sainte-Foy. Le directeur artistique d'Entracte, Jean-François F. Lessard, nous répond quant à lui que « C'est le fun, cette invitation-là d'être au Diamant. Il y a un buzz là. » Vidéo, son, costume, éléments scéniques, M. Lessard mentionne également que le show a de la gueule et surtout qu'il donne l'occasion à des personnes handicapées de s'exprimer sur l'idée de l'espoir. Citation. Les personnes en situation de handicap, on ne leur demande pas toujours ce qu'ils ont à dire. On ne leur tend pas toujours le micro. Fait contracte, il y a ça aussi, l'occasion de prendre parole. Ça reflète une mixité sociale qui est profitable dans notre société. Fin de citation, soutient le directeur artistique d'Entracte. Un espace sûr. Christine Lebeau-Plamondon souligne pour sa part qu'Entracte l'a beaucoup aidé dans sa vie. « Je me sens à ma place ». L'interprète explique avoir déjà participé à d'autres cours de loisirs en théâtre, mais qu'elle ne s'y sentait jamais vraiment à sa place. Citation. « Parce que ce n'étaient pas des gens comme ici, qui sont différents de la norme, je me sens plus acceptée en société. » Quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, je ne l'acceptais pas, parce que j'avais l'impression d'être une extraterrestre. Fin de citation, confie Christine. Citation. Alors qu'être ici, je trouve ça moins lourd parce que je suis avec d'autres gens qui ont des défis qui sont différents de la norme. Fin de citation. Pour Pierre-Hugo Lorrain, Entracte l'a aidé à obtenir un diplôme d'études collégiales en administration, lui qui a fait un retour au cégep à 45 ans. Citation. Puis ben, c'était dur. Je vivais une situation d'âgisme en tant qu'adulte. J'avais l'impression que je ne fitais pas avec la gang, avec tous ces gens plus conventionnels que moi, plus cartésiens, si je peux le dire comme ça. Fin de citation, raconte l'acteur. Citation. Entracte m'a permis de passer au travers de mon deck, de me donner l'espoir de décrocher le diplôme. Fin de citation, exprime celui qui effectue un retour sur scène après 6 années sans faire de théâtre. Citation. C'est mon plus gros challenge à date. J'ai le tiers des répliques. Je joue le rôle principal. Puis, c'est ça. C'est un gros challenge et je suis là pour le relever. Fin de citation. En plus de son volet amateur, l'organisme Entracte réalise aussi des productions qui impliquent des comédiens professionnels et des personnes en situation de handicap. Nouvelle diplomation professionnelle. Entracte travaille également sur le projet Ancrage, une espèce de conservatoire adapté. Dès l'automne, l'organisme veut accueillir une première cohorte d'artistes interprètes handicapés qui pourront obtenir, au terme d'un programme de 4 ans, une attestation de formation professionnelle reconnue par le Centre Louis Joliet. Citation. Ça va faire le pont entre le volet atelier et le volet professionnel. Fin de citation, se réjouit le directeur général, Jean-François F. Lessard. Afin de célébrer le 30e anniversaire, un spectacle d'improvisation, 30 ans revue et massacré, sera d'autre part présenté dimanche dans le cadre du Festival d'impro de Québec. C'était « Le théâtre, c'est pour tout le monde », un texte de Thomas Verret, paru le 21 avril 2025 dans « Moment calme ».
J'ai voyagé à travers le monde. Cet homme qui est devenu paraplégique ne s'est pas apitoyé sur son sort. Un texte de Benoît Rioux, paru le 18 avril 2025 dans le Journal de Montréal. Avoir su que je vivrais tout ça, j'aurais eu mon accident avant. Le Québécois Patrick Desnoyers, 51 ans, garde cette boutade un peu malaisante pas trop loin dans sa manche. C'est sa façon à lui de montrer qu'il ne s'apitoie pas sur son sort. Victime d'un grave accident de motocross qui l'a rendu paraplégique, il y a bientôt 15 ans, M. Desnoyers continue de sourire à la vie depuis ce temps. Capitaine de l'équipe québécoise masculine de para-hockey, l'homme originaire de Blainville arbore sur son bras gauche une phrase de l'écrivaine américaine Marilyn Von Savant. « Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent. » Être défait est souvent un état temporaire, c'est abandonner qui le rend permanent. C'est la mentalité à laquelle j'ai adhéré après mon accident, relate-t-il. Le but est de transférer une épreuve ou un deuil en un défi. Dans mon cas, je savais que je n'allais plus pouvoir jouer au hockey debout. Mon défi a été de faire mon chemin avec Équipe Québec au para-hockey. Avant, le hockey et le motocross, c'était une grande partie de nos vies pour mes fils et moi. La moitié du temps en fauteuil. Monsieur Desnoyers, alors âgé de 37 ans, était en compagnie de ses deux adolescents quand l'accident est survenu sur un parcours intérieur à Mirabel. Après avoir raté un saut, sa moto a atterri dans son dos, fracturant aussitôt deux vertèbres et endommageant sa moelle épinière. Devenu paraplégique, son état s'est amélioré après une longue réadaptation. Mais encore aujourd'hui, il doit régulièrement se déplacer en fauteuil roulant. J'ai des cannes pour m'aider à me déplacer, mais ma vie, c'est environ 50% debout et 50% en fauteuil, selon la durée de l'activité, dit-il. Par exemple, si je fais l'épicerie, c'est sûr que je prends mon fauteuil. En plus du para-hockey, M. Desnoyers a trouvé le bonheur en effectuant pendant des années des compétitions de paracyclisme. J'ai vécu des expériences complètement malades à travers le sport, s'exclame-t-il avec enthousiasme. J'ai une chance énorme, j'ai voyagé à travers le monde. Le fait saillant de sa carrière en vélo, une participation au championnat para-panaméricain au Pérou en 2019. Il y a eu un camp d'entraînement en Arizona et les Jeux para-panaméricains, c'était fou. Avec tous les sports sur place, se souvient-il. C'était comme être aux Jeux olympiques ou paralympiques. L'importance de la famille. Président de l'entreprise X Solutions, spécialisée dans les infrastructures de télécommunications, Desnoyers s'occupe désormais davantage du côté administratif. Avant son accident, il allait aussi faire son tour sur les chantiers, mais c'est maintenant son fils aîné qui a pris le relais avec les techniciens. Le bonheur est dans le travail, dans le sport et auprès de sa famille. Si j'avais choisi de m'apitoyer sur mon sort, je serais couché en petite boule et malheureux, illustre l'homme quatre fois grand-père. Et si j'avais fait le choix d'être malheureux, ma femme ne serait peut-être plus là à mes côtés. C'était « J'ai voyagé à travers le monde, cet homme qui est devenu paraplégique ne s'est pas apitoyé sur son sort », un texte de Benoît Rioux, paru le 18 avril 2025 dans le Journal de Montréal.